Radio Campus Bruxelles 92.1.
Des planches, l'émission critique des arts de la scène sur Radio Campus. Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles, 92.1 FM, comme chaque mercredi 19h-19h30 et en rediffusion le jeudi dès 13h30. J'ai à côté de moi Nicolas. Bonjour, bonsoir Nicolas.
Salut.
Et on attend Élie, alors la petite demi-heure pour vous parler des scènes bruxelloises. On ira du côté du Théâtre National pour le grand metteur en scène français Joël Pommera, qui revient avec Au Monde, une pièce évidemment noire, de couleur noire, hein, sombre aussi, mais de couleur noire, qui est sa patine à lui. On ira faire un tour du côté du Théâtre de la Vie, où ça ne s'invente pas, la pièce démarre sur une histoire d'utérus, et ça s'appelle Chair de poule, premier projet d'un tout jeune projet de Janie Follet. On ira faire un tour aussi du côté du Théâtre Varia, où Marcel Delval présente Hot House. Et si on capte Élie, elle nous parlera de ce qui se passe au Théâtre des Martyrs, ici Mimouna, parcours d'une femme immigrée. Mais là, je me retourne vers Nicolas. Nicolas, tu es parti avec moi d'ailleurs hier voir Au Monde, Pommera, mais grand metteur en scène
grand
en résidence du Théâtre National.
Et oui, qu'on a découvert en Belgique déjà il y a quelques années, pas forcément national, mais il était passé par le Théâtre 140 et les Halles de Schaerbeek. Ce spectacle d'ailleurs avait été passé en sautant aux Halles de Schaerbeek. C'est une pièce de jeunesse, hein, de Pommera, un de ses premiers succès publics, ou semblant de succès public, en tout cas en France. Il a fait parler de lui avec ce spectacle.
En 2004.
En 2004, tout à fait. Et voilà, et comme tu le disais, dès l'entrée, on sait qu'on est chez lui. Parce que la scène s'ouvre sur un grand appartement noir avec des lignes verticales de lumière comme ça qui nous ouvrent vers l'extérieur comme des meurtrières un petit peu. Et on est un petit, dans une famille, on comprend très vite qu'on est dans une riche famille industrielle, notamment spécialisée dans l'armement. Et il y a le père, le patriarche, qui est sur la faim, on va dire, et il a trois filles. En plus de cela, on attend un fils qui doit revenir de l'armée, de la guerre, et il traîne avec lui, ce fils, une sacrée réputation plutôt flatteuse, puisqu'il est assez pacifiste, et que ça lui avait valu quand même assez de renommée au niveau de l'armée. Il a pu monter dans les grades, mais c'est pas un homme d'ambition et tout ça. Mais en tout cas, il revient, et on imagine ce qui va se passer, c'est que le père va transmettre cela à son fils, tout l'empire industriel à son fils. Et pendant toute la pièce, ça va être la grande question de cette transmission et de renier un peu les origines, ou en tout cas de la réputation de ce fils qui traîne une réputation de pacifiste pour reprendre cette usine d'armement. C'est un peu ce qui sous-tend cette pièce. Mais on sera aussi concentré sur les trois filles. On a trois filles au caractère très différent. On a l'aînée qui est en couple, enceinte, qui semble assez fidèle au patriarche, comme ça, mais qui est assez détachée aussi. On sent qu'elle a délégué un petit peu les affaires de famille à son époux, le beau-fils, donc. Puis il y a celle du milieu qui est animatrice de télévision, qui représente un peu aussi la frivolité et le contact avec le monde extérieur. On y reviendra après. Et puis la cadette dont on ne sait pas très bien si elle était avouée dès le départ ou si elle est revenue par la suite. En tout cas, on sent qu'autour de son identité et de son intégration dans la famille, ça n'a pas été simple.
C'est tout l'univers très inquiétant,
oui,
que pose justement Pommera. Par exemple, la cadette, c'est une adoptée. Alors, ils l'ont adoptée parce qu'elle ressemble à une,
oui,
de leurs enfants qui est en fait mort. Donc, on remplace le mort par un prototype, par un double qu'on a acheté, hein, adopté. Et donc, elle pique des crises en disant « Mais comment vous m'aimez ? Je me lève, je me pose la question. » Donc, il y a vraiment des personnages très différents dans cette pièce. Et c'est quand même un texte éclaté, hein. Quand on voit les notes d'intention de Pommera, qui essaye de... Voilà, il parle d'intimité oppressante, d'une réunion familiale sous le signe de la désillusion et une critique radicale de la société capitaliste. C'est là où moi je bug, Nico.
Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en effet, pour Pomera, son travail ne se limite pas à l'écriture. C'est-à-dire qu'il veut créer quelque chose, une ambiance, un rapport, comme il dit, sur le plateau, par le jeu des comédiens. On retrouve ici sa recette habituelle, des micros, avec des visages troubles ou en tout cas cachés un petit peu dans l'obscurité pendant quasi l'entièreté du spectacle et on ne voit pas leur émotion. Et puis ce côté clair-obscur, de contraste comme ça. Et alors, en effet, on va se révéler très vite que cette famille, elle fonctionne un peu en vase clos comme ça. Elle ne se penche que sur ses propres problèmes, sa propre transmission, et elle ne voit pas peut-être un monde qui évolue en dehors de ses murs et un monde qui s'écroule, parce que il y a une menace aussi qui plane à l'extérieur, une menace, un fameux serial killer.
Et un fait divers. Mais justement, il y a plusieurs. On pourrait croire que c'est un sitcom. Pourtant, oui. C'est très noir, très rituel, même si c'est pas vraiment un théâtre de rituel. Hein, mais c'est très sombre. Tout est en lenteur. Les voix sont sonorisées, c'est feutré. Et en même temps, quand, par exemple, une des techniques, c'est quand les gens marchent pour aller dans le salon d'une pièce à l'autre, la sonorisation des pas est explosive, alors qu'eux marchent tout simplement et on entend... Donc, il y a toute une étrangeté qui s'installe avec tous ces murs noirs et cette lumière. À l'extérieur, il y a apparemment un serial killer qui dégomme des filles. Et finalement, on se dit, toutes ces pièces mises ensemble dans le puzzle, so what? Moi, où là, ça me dérange, c'est quand on fait les grands mots critique radicale de la société capitaliste. Alors déjà, le radical, on peut l'enlever. Bon, critique de la société capitaliste, c'est au lecteur, c'est au spectateur à remplir ces trous-là. Parce qu'on est dans une maison, dans une histoire de famille, finalement, où rien vraiment prend. Alors, c'est clair, il en fait lui-même référence. On voit Tchekhov, le temps et la maison qui s'écroulent, la famille, la décadence d'un monde qui part, et une famille, là, est en villégiature. Ici, ils sont dans leur milieu bourgeois. Moi, je me dis, par rapport à toutes les autres pièces de Pomera, qui est très, je dis toujours, c'est du social onirique, donc il y a tout un univers comme ça, onirique, avec un thème très social. Par exemple, dans Cet enfant, c'était plusieurs personnes d'un HLM. Dans le spectacle qu'on avait vu, où c'était un directeur de supermarché... Dans ma chambre froide. Un directeur de supermarché avec tout ce monde autour. On était beaucoup plus sensible, moi, je trouve, au monde capitaliste qui écrase les gens.
Parce qu'on était plus vers les victimes. Ici, on a l'impression qu'il veut mettre en victime, justement, cette famille qui est prisonnière de son fonctionnement et de cette transmission qui ne se fera pas sans mal. Et c'est vrai qu'il part du haut et il reste très bas, finalement, dans le fond de la pièce. Et oui, comme on dit souvent, les ficelles sont mises, mais elles ne tirent pas dessus.
Elles ne tirent pas dessus, oui. Et puis, le texte est quand même pauvre. Bon, il y a des tirades un peu puériles sur le monde qui va mal. Toi, tu disais une espèce de petite morale comme ça qui est un peu...
Surtout à la fin, c'est vraiment la dernière réplique qui dure 5 petites minutes, sans doute. Et on a l'impression qu'il nous lâche tout là en 5 minutes. Il nous laisse avec ça. Et ça vient comme un cheveu dans la soupe. Ça tombe comme ça et avec ces moralisateurs à mourir.
Moi, j'ai eu le même sentiment avec Jean-Benoît Hugeux qui fait très des rôles de Fassbinder ou de social ou comme ça de très fort dans le peuple, on va dire, ou les gens. Et à un moment donné, il s'est attaqué au monde des businessmen d'une famille bourgeoise et il s'est planté parce qu'il est parti dans quelque chose de un peu caricatural. Et j'ai eu le même sentiment ici, pas la caricature, mais quelque chose d'un peu puéril. En même temps, Pomera a une écriture, a un travail, il travaille tout le temps avec la même équipe, donc c'est vraiment une famille et il travaille ses textes au quotidien, donc d'un soir à l'autre il peut rajouter, donc il y a vraiment un travail d'œuvre chez lui, mais ici on reste, en tout cas moi je suis restée complètement extérieure par rapport au texte.
Alors qu'il installe déjà une distance.
Voire même fâchée, moi j'étais fâchée en sortant, et en plus il faut savoir que cette pièce-là par exemple, elle va être bientôt à la Monnaie, mise en scène en opéra par une composition et un livret de Philippe Boussement. Et donc, ça fait un événement quand on crée un nouvel opéra, quand même. Et Philippe Boussemans nous disait hier, à un moment donné, il a trouvé là des archétypes qui lui conviennent mieux par rapport au reste des pièces de Pomera. Et donc, ça ne m'étonne pas. Ça va super bien fonctionner en opéra, avec la musique. Mais finalement, au théâtre, on se dit, so what?
Je dirais que dans les creux, en effet, de cette pièce, on sent qu'il y a du lyrisme qui est là, mais que ce sera la musique peut-être qui le mettra en valeur, en sachant aussi que dans l'opéra, le texte sera recoupé de deux tiers. Hein,
normalement. Oui, mais bon, moi, l'opéra, les livrets d'opéra un peu poussiéreux, finalement, il est dans la lignée bourgeoise, hein, faut quand même un peu le dire. Hein, c'est vraiment là. Donc voilà, on a le père bourgeois avec les filles et tout, qui vont, qui sortent. Bon, mais à un moment donné, la critique du capitalisme passera. Toujours est-il qu'hier, il y a des gens qui ont vu du pommerat, comme on dit, pour la première fois, et que ça fait vraiment son effet, parce qu'il y a une beauté des tableaux,
oui,
et quand même des jeux d'acteurs.
La maîtrise visuelle est toujours là, et le jeu d'acteurs est formidable, notamment le patriarche qui est très bien, Agnès Berton qui est une habituée de chez pommerat. Enfin,
tu tous, l'aimes, hein, tu
ouais, l'aimes. Moi, je l'aime bien, en tout cas, dans tous ces spectacles. Et voilà. Mais en tout cas, oui, voir du pommerat, mais peut-être pas commencer par celui-là. Ouais. On attendra la suite au Monde. C'est à voir jusqu'au 2 février du côté du Théâtre National. Et ça reviendra donc à la Monnaie en opéra début avril, du 30 mars au 12 avril, si je ne m'abuse. Et toutes les infos sur www.theatrenational.be.
Voilà, alors que lui mettra en scène, hein, il a déjà mis un opéra, et toujours avec son copain qui fait la scéno et la lumière, Éric Soyer. Donc c'est vraiment le noir de noir, un peu à la Soulage, dans l'univers de Pommerat. Moi, je vous emmène au Théâtre du Parc. Il m'arrive d'aller au Théâtre du Parc, rarement, mais j'y vais.
Mais sûrement.
Nouvelle direction de Thierry Debroux, qui depuis 2 ans essaye en douceur de moderniser ce théâtre, qui est bon, un théâtre pour un public conservateur ou quelque chose comme ça. Mais il y a quand même des jeunes qui vont là-bas, donc moi je suis assez surpris à chaque fois que j'y vais. Mais ce n'est pas un théâtre qui est ma tasse de thé, il faut le dire d'emblée. Toujours est-il que je suis partie voir Richard III, parce que là aussi on retrouve Isabelle Pousseur, directrice et metteuse en scène du théâtre Océan Nord. Là, donc, Thierry Debroux attire à lui-même et il fait des bons choix d'artistes ou de metteurs en scène. Et donc, elle porte le Richard III de Shakespeare. On en voit hein, des Shakespeare chaque année. Moi, j'ai été assez déçue, finalement, de la metteuse en scène. Isabelle Pousseur nous avait donné une version africaine du Songe d'une nuit d'été. Et ici, finalement, on se dit, c'est étrange de voir un metteur en scène qui ne prend pas d'option dans une mise en scène. Tu parlais la fois passée de Roméo et Juliette de Shakespeare, qui est pour l'instant au public. Et là, on voit, voilà, on attend d'un metteur en scène qui porte des options, peut-être pas spécialement radicales, mais qui propose un regard, surtout quand on touche à un répertoire. Là, on s'attend. Ici, j'ai l'impression qu'on a simplement dérouler la pièce et basta cosy.
Elle a peut-être fait confiance à Guy Pion qui emmène quand même le rôle principal.
Voilà, alors c'est le théâtre de l'équipe de Guy Pion, ça faisait
de l'éveil.
Guy Pion, ça faisait un bon bout de temps qu'on ne l'avait plus vu, donc voilà, c'est aussi une œuvre de commande. À un moment donné, un directeur est là aussi pour mélanger des gens ensemble et dire, allez, vous ne voulez pas vous lancer dans cette aventure. Voilà, c'est lui qui prend le rôle de Richard III, hein, qui, dès le début, annonce ses ambitions sanguinaires, et on va voir évidemment l'ascension d'un type jusqu'à la couronne, et il va dégommer mais tout sur son passage.
Ses
rivaux qui sont dans la famille, donc son frère, son neveu, même sa femme. La totale. Alors chez Shakespeare, moi j'adore parce que tout le monde s'entretue pour une couronne. Hein. Frères, sœurs, rien à foutre. Et à un moment, en plus, ils ont des visions, ils ont des prophéties. Et finalement, comme dans Macbeth, lui aussi, il va se faire avoir par le mal qu'il a fait, par ses prophéties, il va se faire hanter et finalement, il va tomber dans le ravin. Hein. Lui aussi, il va claquer à la fin. Mais alors, les tonnes de meurtres qu'il y a en travers ça. Et donc, moi, un jour, PM m'avait dit, voilà, ce qui est passionnant chez Shakespeare, et c'est pour ça qu'on le revoit tout le temps, c'est que tous les rapports de force y sont, de la famille, du pouvoir, de l'État, des ennemis, tout ça y est. Donc ça reste quand même passionnant. Maintenant, ça dépend du texte qu'on a, parce qu'il faut savoir l'adapter. Soit on propose une radicalité très forte, soit on le modernise, mais en tout cas, on prend un parti, on prend une option. Ici, ce qu'il passe, ça démarrait pourtant vraiment bien. On est dans un univers, moi je dirais, d'entre deux guerres, où il y a du swing comme ça, et on voit une soirée de gala où ils sont assez chics et on voit le futur Richard III en habit militaire qui lui est un peu hors cette foule frivole, et il prend le micro et il commence à faire son discours comme en aparté, nous dire tout son cynisme déjà. Et donc déjà dans cette ambiance d'entre-deux-guerres, on sent les menaces à venir avec tous ces gens qui dansent et qui font du swing, et on sent que ça démarre, qu'on est déjà dans le complot, déjà dans des ambitions assez effrayantes. Et la pièce, elle est concentrée finalement sur une espèce de rideau au milieu de scène qui s'enroule sur elle-même, qui à un moment donné va donner la fameuse tour d'Angleterre où vont être dégommés le jeune Édouard. Et moi, ce qui m'a fatiguée, c'est que cette tour, finalement, elle s'ouvre, elle se referme au gré des situations. Et c'est là que tu te dis... la metteuse en scène, elle ne s'est pas trop foulée. Donc, ça s'ouvre, ça devient un boudoir. Ça se referme, ça devient à un moment donné, ça s'ouvre, ça se referme, ça s'ouvre. Et ça devient à un moment donné la réunion des nobles qui discutent en une chambre de lord, on va dire. Ça devient un boudoir, ça devient plusieurs lieux et ça devient la tour. Et on se dit, cette option-là, à un moment donné, elle fatigue. Tout le côté swing, frivole et tout, on l'a complètement oublié. La pièce se déroule d'une traite avec ces comédiens qui vont y vivre avec un jeu inégal. Et on se dit... c'est simple, c'est facile à voir. Moi, je dois l'avouer, ma voisine m'a dit que la mise en scène était très originale. Moi, je suis repartie vraiment déçue. Je ne veux pas dire fâchée, mais un peu comme les pommes. Hein. Moi, je suis fâchée quand je sors d'un mauvais spectacle, ça m'énerve.
Surtout quand on aime bien les gens qui font ces
spectacles. Surtout parce qu'elle a vraiment de la hauteur. Et ici, on s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, hier, je voyais une fille qui disait, moi, j'ai aimé le Richard III d'Isabelle Pousseur parce que ça part en ligne droite. Donc, les gens qui aiment que ça parte en ligne droite...
Le sprint.
Allez voir Richard III au Théâtre du Parc.
Jusqu'au 15 février, www.théâtreduparc.be.
Petit mot pour dire qu'au Théâtre de Namur, ce week-end, il y a un Richard III, mais ultra radical, par une performeuse qui fait fureur souvent à Avignon, qui s'appelle Angelica Liddell. C'est assez trash, elle est un peu cousine d'Artaud, moi je dis. Voilà, c'est deux soirs. Si vous voulez voir une expérience totalement différente avec le même texte, courez adapté. De Shakespeare, courait au Théâtre Royal de Namur.
En parlant de texte, au Parc, ça a été un peu retravaillé. Hein.
Ça a été adapté, je crois que c'est Thierry Debroux qui l'a adapté, mais voilà. Tout ça n'a pas de grande ambition, en tout cas pour moi.
La conspiration.
De retour dans la conspiration des planches.
Et je me retourne directement vers le cornet du téléphone. On a Elisabeth. Bonjour Elisabeth.
Bonjour, bonsoir.
Alors toi, tu es partie au Martyr, voir pour nous ici Mimouna.
Voilà, tout à fait, qui est un spectacle de et par Farida Jous. Alors, c'est un spectacle qui s'inscrit dans le cadre de la commémoration de l'accord belgo-marocain qui date de février 1964. Et on part à la suite d'une mère et de sa fille, une mère et de sa fille qui ont immigré dans ces années-là, qui sont arrivées sur Bruxelles. Alors, on est pendant tout le spectacle, tantôt avec l'une, tantôt avec l'autre, interprété bien sûr par une seule comédienne, mais on a deux espaces sur scène et un code très clair quand elle joue sa mère et quand elle joue son propre rôle, puisque c'est un texte autobiographique aussi. Alors, c'est un spectacle qui aborde cette immigration, ce phénomène-là, ces 50 ans, mais vu du côté des femmes, de ces femmes un petit peu dont on sait finalement peu de choses parce qu'elles restent quand même assez bien chez elles. Et on a donc Mimouna qui est la maman et qui nous raconte un peu son rapport à la Belgique et sa vision des choses et cet étonnant pays où on donne des drôles de noms aux rois, Bidouin et des choses comme ça. Donc et puis surtout ce qui lui manque un petit peu, ce qui est un peu ce soleil, mais ce soleil qu'elle nous apporte. Mm-hmm. Et puis de l'autre côté de ça, on a sa fille, donc c'est la deuxième génération, et puis elle qui est confrontée à totalement d'autres problèmes. Et à travers le dialogue mère-fille, on a évidemment des thématiques qu'on connaît, mais là on les vit un petit peu de l'intérieur, puisque c'est à la fois la nécessité d'arriver vierge au mariage, la religion, comment ça se passe, comment d'une génération à l'autre... ses vécus et toutes ces choses-là. Et donc, c'est un spectacle assez attachant. Au niveau de la forme, je pense qu'il gagnerait à être un petit peu resserré parce qu'il y a beaucoup d'émotions, notamment avec le personnage de la maman qui est très, très chaleureux, qui est très authentique et tout ça. La confrontation mère-fille est intéressante aussi. Mais il y a une tentation de documentaire un petit peu qui fait que on rajoute un peu, on a la fille à une émission de radio, donc on a du son au niveau de la radio, on a on a évidemment des vidéos, on a plein de choses comme ça. Mais voilà, mais c'est quand même quelque chose, en tout cas, plein de bonnes intentions.
On dirait que ça, avec tout ce qui est l'enveloppe, on va dire, ou la mise en scène, les options, on dirait que ça évite le one-man-woman show et qu'on est plus dans du théâtre que dans de l'humour, des accents, ce genre de choses.
Je sais pas, je pense qu'il est quand même assez théâtral, la mise en scène clarifie assez bien les choses. On est des passages d'un espace à l'autre, d'un personnage à l'autre, tout ça est bien mis en place. Mais ce que j'ai ressenti, c'est que finalement, on s'identifie aux personnages et qu'on a plus envie de rester avec eux que d'entrer dans ce volet documentaire. Et ça m'a semblé un peu aborder beaucoup de choses à la fois pour un en scène finalement.
Trop didactique peut-être ?
Pas spécialement didactique, parce que comme on est vraiment avec les personnages et qu'elle passe tout le temps du personnage de la mère à son personnage à elle, mais voilà, je pense qu'il y a encore un petit travail de remise en forme à faire, mais c'est un spectacle plein de générosité et où on se prend un bon coup de soleil, mais un bon coup de chaleur, parce qu'il y a beaucoup de chaleur qui émane notamment de ce personnage de Mimouna et de son regard. Il faut bien se dire qu'elle est analphabète, sa fille a fait une thèse de doctorat, donc on a vraiment pas un fossé, mais c'est deux mondes et ce passage est là et est intéressant et chaleureux en fait.
Oui, de l'ascenseur social. En tout cas, Issy Mimouna est à voir au Théâtre des Martyrs
jusqu'au 15 février. C'est jusqu'au 15 février. Il y a ce dimanche, il y a aussi une rencontre débat donc à l'issue du spectacle sur la situation des femmes après 50 ans de présence marocaine en Belgique. Donc voilà.
www.theatredesmartyrs.be.
Et puis il y a beaucoup d'activités avec l'histoire de l'immigration. Donc c'est le moment d'y jeter un œil.
Et je dirais encore un petit mot sur ce spectacle. Si vous nous écoutez en direct mercredi, vous venez d'entendre l'émission Histoire de savoir avec Farid Azouche qui était l'invité de Déborah Fabré. Et si vous l'avez manqué, eh bien vous pouvez la retrouver demain matin à 9h sur Radio Campus.
Merci Elisabeth, à bientôt.
À bientôt.
Après l'immigration, on va dans un asile, Nicolas,
oui.
Apparemment, Hot House. Oh, quel sourire pour aller à l'asile.
Bah oui, alors, c'est toujours drôle. Hein. Et surtout, quand on a du Pinter, on s'attend à voir des choses un petit peu comiques et cocasses, évidemment. Et c'est un peu le cas. En fait, d'entrée de jeu, on sait que cet asile, il a connu un carnage total. Plein de personnes sont mortes, et notamment, non pas les pensionnaires, mais tous ceux qui s'occupaient de la direction à l'infirmière, ou en tout cas, voilà. Et c'est cette pièce va être donc le flashback pour voir comment on en est arrivé là. C'est un établissement qui est tenu, je ne vais pas dire de main de fer, mais en tout cas avec une certaine rigueur, par un vieux directeur sur la fin de carrière qui est incarné par Pascal Racan. Et il va lui tomber le jour de Noël, vraiment deux mouises. Tout d'abord, un mort et une femme enceinte, un enfant qui pourrait être un viol. Et le mort, c'est peut-être un meurtre. Donc voilà, beaucoup de choses dans cette maison.
C'est un polar.
Voilà. Ça commence comme ça un petit peu sur un polar. Mais ça va rester une espèce de huis clos, presque tout le temps dans le bureau de ce directeur, où vont se croiser, et donc Pascal Racan, le directeur, son assistant, son adjoint, joué par Dominique Ronvaux, qui sera le seul survivant et qui viendra nous raconter cette histoire. Il y aura également plein d'autres personnages, comme le chef des gardiens, une infirmière, et encore un autre personnage qui joue un aide-soignant, comme ça. Et pendant toute cette pièce, va être installée une sorte de tension. On va voir que c'est quasi la dictature avec ce directeur qui tient ça de main de fer, mais qui est en fait bourré d'inquiétude et qui provoque auprès de son personnel une foule de frustrations. Et donc vont s'élever des pulsions de domination de pouvoir, domination sexuelle aussi également, et des ambitions de chacun aussi pour être directeur calife à la place du calife.
Mais comment on joue les fous sur scène ?
Ah, les fous ! Attention, on va se demander si les fous ne sont pas dans ce bureau-là, parce que les pensionnaires, on ne les voit jamais. On entend parfois des cris qui surgissent du bout de la scène, du bout du bâtiment, on a envie de dire. Et donc, cette pièce va se dérouler comme ça, à la fois dans le bureau du directeur et parfois des petites scénettes qui se déroulent dans d'autres pièces pour voir un petit peu les enjeux entre les personnages. Moi, je trouve que cette pièce, c'est du Pinter, avec toute cette cocasserie, ce truc un petit peu absurde aussi qui nous surgit un jour de Noël, pourquoi ? Et aussi pourquoi cette institution dont on ne sait pas si c'est un asile psychiatrique, un sanatorium, enfin bref, une prison peut-être. Et ça va manquer peut-être un peu de rythme dans son déroulé, bien que ce soit formidablement bien joué par Pascal Racan, Dominique Ronvaux et toute la clique, que je citerai en fin de chronique. Et aussi, ce qui est bien aussi, c'est la mise en scène, c'est cette scénographie, puisque ce bureau est encadré par une sorte de couloir grillagé, un peu comme les fauves quand ils s'introduisent dans la cage au lion au cirque, comme ça. Et ils vont se déambuler là-dedans, sortir de scène par ce couloir, avec toute cette série de boutons pour ouvrir une porte, pour la refermer. Enfin, il y a une ambiance sonore aussi qui est faite, tout un carcan sonore pour peser un petit peu sur l'ambiance de la pièce. Et c'est ça qui est peut-être le point fort de cette création de Marcel Delval, qui peine un petit peu à être rendue dynamique par des temps morts un petit peu. Mais voilà, il y a le fond qui y est, mais on aurait aimé que ce soit un petit peu plus mené au pas de course.
On est fort mitigé hein, aujourd'hui. Il y a des semaines, on est envolé. Alors, c'est à voir jusque quand ?
Alors, ça, c'est à voir jusqu'au 8 février, donc au Théâtre Varia, www.varia.be. Deux minutes pour la dernière création.
2 minutes pour Chair de Poule. C'est la création d'une jeune comédienne qui s'appelle Janie Follet, qui est ici en coécriture et aidée, soutenue avec Hélène Cordier, et qui s'appelle Chair de Poule. Alors, elle a voulu travailler sur l'existence de femmes et elle part sur l'utérus, la pièce. Commence par une conférencière qui vient nous expliquer qu'elle a quelques minutes pour nous parler de l'utérus. Et tout doucement, ça va voguer sur un univers beaucoup plus personnel, intime. On sort de la conférence et on est dans, on va dire, la cuisine ou l'espace de cette jeune fille. Et elle passe sur des états. Tantôt elle est mère, tantôt elle est la fille. Ça se voit en filigrane. Et en fait, quand on voit les notes d'intention, on dit que la conférencière devient la mère et la fille, donc il y a une espèce de flashback, et c'est tout l'univers de la femme dans son intimité, dans l'utérus, le sexe,
le corps, quoi,
la solitude, c'est pourquoi être mère ou pas mère, tout cet univers-là qu'elle questionne. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle y glisse du Michaud, du Heiner Müller, mais ce qu'il y a, c'est qu'elle est vraiment prise ou coincée par deux envies. Il y a de la comédie et il y a de la performance. Et moi, évidemment, c'est la performance qui m'attire le plus. Et la performance ici est prise un peu en otage de la comédie. Elle va chanter du Julie Petri, elle va faire un peu de cuisine. Et donc voilà, la scénographie est très très belle. Et c'est là qui tient, la scénographie tient vraiment cet espace dans la performance. C'est une espèce de... On peut y deviner une cuisine. Donc c'est tout un espace blanc. Et alors, évidemment, elle travaille avec la symbolique de l'œuf. D'ailleurs, à un moment donné, elle écrase pas mal d'œufs et elle s'en enduit le corps avec une chorégraphie qui est assez surprenante, où là, on dit qu'elle glisse dans quelque chose qu'elle a voulu, c'est-à-dire travailler vers l'animalité. Mais plusieurs fois, elle tombe dans la, pour moi, qui est de la gaudriole. Elle joue l'histoire d'une femme bourgeoise qui interpelle son mari tout le long. Donc ça, c'est un peu lourd. Mais en tout cas, elle a du talent, parce qu'elle a vraiment un talent de comédienne physique, je trouve. Et son projet, voilà, il est tout jeune, il est tout frais. Moi, là aussi, en partant, j'étais pas spécialement, pas fâchée, mais là je me dis, voilà, va plus dans la performance, arrête la comédie, ça, parce que le thème est beau, mets-nous-y un peu plus de poésie, hein, Michaud, Müller, ça valait le coup. Mais donc voilà, c'est un premier projet, c'est jusqu'au 1er février, et ça ne s'invente pas, il y a des soirées qui sont sold out. Donc elle est suivie par un petit public probablement d'amis. Ça se passe au Théâtre de la Vie, c'est jusqu'au 1er février.
www.théâtredelavie.be.
Et ça s'appelle Chair de Poule. Voilà. Ainsi se termine la conspiration des plans, hein, sur les chapeaux de roue, comme d'habitude. Alors, c'était très mitigé, mais bon, alors, c'était Le Monde, pièce noire de noir dans la couleur, Richard III en ligne droite, comme a aimé une personne qui nous en parlait. On est parti dans l'asile, hein, l'asile et ses criages, et dans l'immigration, ici, Mouna, et enfin, une histoire d'œufs et d'utérus dans Chair de Poule, quelques expériences théâtrales, hein, là, on peut dire, voilà. Bonne planche à tous, sortez, ne restez pas à la maison et on se retrouve la semaine prochaine. Salut Nico.
Le podcast de cette émission sur demandezprogramme.be dès vendredi et moi aussi je vous souhaite une très très bonne semaine. We'll be right back.
conspiración.